Une vie en scène, mais acha, d'un autre verset, qui se trouve d'ailleurs, vous vérifierez, deux fois dans le psaume, ce verset, dans deux contextes différents, ce que nous allons utiliser d'ailleurs pour la compréhension de la Gemara elle-même. Ici, dans le texte que j'ai sous les yeux, on vous donne le psaume
29.
Mais ce même verset se trouve aussi, il me semble, dans le psaume 32. Vous vérifierez. Un que l'on dit le vendredi soir et un que l'on dit le Shabbat matin. Ishtachavu Lashem behadrat kodesh. Ishtachavu Lashem, prosternez-vous devant Hashem behadrat kodesh. Hadar, c'est la splendeur. Hadar, hodve hadar, behadrat kodesh. Dans la splendeur de la sainteté. Avant de voir la suite de la Gemara, que serait cette thèse? La référence à l'expérience du dévoilement de splendeur. Il y a de la splendeur dans le monde, donc Dieu existe. Vous voyez à peu près de quelle thèse il s'agit. Qu'est-ce que c'est que le sentiment religieux? C'est une transfiguration du sentiment esthétique.
Adoration.
Et d'où là, oui. Adoration, mais de quoi? Adoration provoquée par l'expérience de la splendeur. Et beaucoup d'auteurs ont utilisé cela.
Et l'Adon après la Maasim.
Là, il y a Adon. Et là, c'est différent. Vous voyez comme nous sommes vraiment gênés de raisonner sur des catégories hébraïques en français. Bien. Et Adon, c'est la souveraineté. Là, c'est l'expérience de la transcendance. Tandis que là, il y a expérience d'un dévoilement de splendeur dans la créature. Donc, cette horloge est un ouvrier, comme dirait Voltaire. Eh bien, la Gemara va refuser. Mais d'abord, je voudrais caractériser cette tentative de définition-là, de ce que serait que cette émotion du Kovet Roche. Et si je suis devant le spectacle d'une splendeur, d'un paysage du monde, de la nature cosmique, alors bien évidemment, ça me met dans un Kovet Roche de nature du devant Dieu. Il y a quelqu'un qui a voulu cela. Mais la Gemara refuse en disant non, c'est dangereux. Parce que c'est trop proche d'un comportement religieux païen qui mène finalement à la conscience panthéiste. Hein? Que Dieu, c'est la splendeur du monde. Non, la splendeur du monde, c'est la splendeur du monde, Dieu, c'est Dieu. Et est-ce que c'est clair? C'est pas la même chose. Hein? Et la Gemara va aller beaucoup plus loin. En disant, Al tikre behadrat et la beherdat. Tout de suite, la Gemara va nous dire, change le mot du verset. Ne lis pas hadrat, la splendeur, lis herdat, la terreur de la sainteté. C'est-à-dire, elle me dit, dans tous les cas, ce que le verset dit est trop dangereux. Et il faut ici y substituer une autre expérience. C'est la terreur que déclenche cette splendeur. C'est-à-dire, parce qu'il y a dans le monde deux possibilités de spectacle de ce type. Soit je peux être sensible à l'harmonie du monde. Ça, c'est le verset comme il est écrit. Hadrat Kodesh. Soit je peux être sensible au chaos du monde. Ça, c'est Herdat Kodesh. À l'ordre ou au désordre, si vous voulez. Et alors, la Gemara semble préférer la deuxième lecture que la première. Vous voyez, c'est un principe de altikré. C'est-à-dire, il faut corriger le texte, entre guillemets, parce que la manière dont il est écrit risque de te mener à une tangente dangereuse. Ici, il n'y a pas de doute que la Gemara met l'expérience que le peuple juif a eu dans son histoire de ces altérations, de ce qui, à l'origine, pourrait être authentique. Bien sûr, le texte a dit hadar, le texte a dit splendeur, et c'est ça qu'il veut dire. Mais voilà, on te conseille de lire terreur, parce que c'est moins dangereux comme hérésie possible. Est-ce que c'est clair? Et puis tout de suite, la Gemara va objecter sur son objection, en disant, c'est la suite, Mimai, en quoi tu me dis que c'est splendeur qui est terreur? Dis-moi, le olam et mala hadrat mamash. Peut-être je pourrais t'objecter que c'est splendeur qui est splendeur. Qui a de Rabbi Yehuda, puisque nous avons l'exemple de Rabbi Yehuda. דהבה מציין נפשי, il מציין נפשי, ça veut dire il se mettait dans un état de splendeur, c'est-à-dire il s'habillait bien, מציין נפשי, il mettait sa personne dans un état de מצוים, כן? בהדר, et pour expérimenter le kovod roch de cette manière, dans une atmosphère de beauté, il n'allait que dans des synagogues belles, si vous voulez, et il s'habillait avec des vêtements beaux, de bon goût, dans cette atmosphère-là. On peut être omède les j'ai dit belles, j'ai pas dit autre chose, pour les synagogues. Enfin, j'ai pas dit... Vous avez compris ce que je veux dire? Non. Les synagogues ne sont pas belles quand elles imitent des styles non synagogues. Ça va, mais ça y en a fait. Béhadar, et après seulement il prie. Alors nous avons donc une dialectique interne au même verset. Vous verrez dans, lorsque vous retrouvez la référence de ces deux versets, une fois ce verset est donné dans un contexte de splendeur, un contexte d'ordre, d'organisation du chaos. C'est. Lorsque l'on décrit l'état du monde dans les six jours du commencement, à la fin du sixième jour, lorsque le chaos est organisé et que l'histoire de l'homme va commencer. Mais ce même verset se retrouve dans un autre contexte et où suit l'expression Hilou mipanav kolaharet. Ishtahavu lachem beadrat kodesh, Hilou mipanav kolaharet, ça veut dire trembler devant lui toute la terre. Je crois qu'une des manières simples de comprendre cela, c'est qu'effectivement nous pouvons avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux modalités de cette même expérience. Soit d'être sensible à l'aspect d'harmonie qu'il y a dans le monde, soit d'être sensible au contraire à l'aspect de chaos, à l'aspect terrifiant qu'il y a dans le désordre sous-jacent à l'ordre apparent. Je ne sais pas comment dire, bon, le coucher de soleil, alors ça c'est Hadar, les araignées dans la forêt vierge, ça c'est Herda. Dans les deux cas, il s'agit, si vous voulez, de l'induction à partir du spectacle du monde, mais dans les deux cas, il y a ce piège, si vous voulez, de confusion qui mène à la conscience panthéiste. Parce que l'esthétique, le sentiment esthétique peut avoir ces deux visages, soit l'esthétique du défiguré, soit au contraire l'esthétique de l'harmonieux, et dans les deux cas, ça renvoie à une expérience religieuse qui est trop proche d'une expérience païenne. Et donc, ce n'est pas encore ce que nous cherchons. C'est-à-dire, c'est caractérisé, c'est connu, c'est identifié, c'est situé. Il peut y avoir le cas particulier de Rabbi Yehuda, mais ce n'est pas à cela que la règle de la Mishnah a voulu faire allusion, parce qu'elle veut légiférer pour l'ensemble, pas seulement pour le plus grand nombre, pour la collectivité. Et donc, il nous faut une définition de la motivation intérieure de ce kovod roch qui soit universelle. Parce que, vous avez très bien compris, si je ne fais pas partie du tempérament de Hana, alors je ne serai pas juif. Si je ne fais pas partie du tempérament de David, de ce verset, je ne serai pas juif. Si je ne fais pas partie du tempérament de Hadrat Kodesh, Vechenala. Alors il nous faut vraiment atteindre l'authenticité au niveau de l'universel. Est-ce que c'est clair? Et en fin de compte, et nous arrivons à la réponse de la Gemara. Ella. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman, fils de Yitzchak, enseigne. Me'acha de ce verset-là, d'un verset du psaume 2. Hivdu et Hashem Beira, Vegilu Birada. Alors je vais d'abord traduire le verset. Nous allons avoir plusieurs lectures successives jusqu'à arriver à l'intention de la Gemara elle-même. Et nous avons plusieurs conséquences à tirer de cette, finalement, de la décision de la Maskana, c'est pas la décision, la conclusion du raisonnement de la Gemara. Vous remarquerez que là nous avons un enseignement de type classique dans la forme. D'abord une première réponse, puis une deuxième, puis une troisième qui entraîne une quatrième, et enfin une cinquième. Et c'est en général le plan classique, parce que ça se réfère aux quatre mondes qui sont cinq, enfin vous voyez à peu près les correspondances, mais on a l'habitude de dire de façon plus simple, c'est l'étude par la méthode de Hazaka. Comment dire Hazaka en français? Pas présomption. Évaluation. Hein? C'est l'expression de Yada Hazaka. Et la main a toujours quatre doigts et le cinquième. Et finalement, c'est le cinquième qui fait que la main est la main. C'est Yad HaChazaka. Et la règle est la suivante. En général, lorsque nous avons ce plan de différents enseignements successifs, nous avons la règle suivante. Il faut toujours comprendre comme les premiers et faire comme les derniers. Et je dirais en hébreu, on comprend comme les rishonim et on fait comme les acharonim. Nous pouvons réfléchir un peu sur cette règle. En tout cas, déjà je l'applique ici, il est bien évident que la réponse immédiate de la Gemara, c'était de citer Rabbi Elazar. Nous avons un seul exemple de la vraie prière, c'est Hana. Mais comme nous ne sommes pas capables de cela, alors descendons. Mais pour la règle en général, il est bien évident que ce sont les anciens qui ont expliqué ce que voulait dire la parole entendue de la façon la plus fondamentale. Mais ce sont les derniers, nos prédécesseurs immédiats, qui nous ont expliqué comment il faut faire dans le temps de l'histoire où nous sommes. Est-ce que c'est bien clair? On comprend comme les Rishonim, on fait comme les Acharonim. Finalement, je comprends, et c'est l'objet de l'étude, comme Moïse a dit, mais je fais comme mon rabbin me dit. Et il y a 4000 ans d'épaisseur. Je pense que c'est clair. Bien. Alors, quel est ce verset? Aïdou est Hachem Beira. Servez Hachem. Faites-vous serviteur de Hachem Beira dans la crainte. Regilou Birada. Et réjouissez-vous dans le tremblement. Il y a ici une tentation à cause d'un célèbre livre de Kierkegaard de dire qu'au fond, voilà ce que la Gemara veut nous dire, crainte et tremblement. Mais revenez bien sur le verset, c'est tout le contraire. C'est pas du tout crainte et tremblement, regardez bien le verset, c'est joie et tremblement. C'est clair. C'est-à-dire, Eivdo et Hachem Beira, servez Dieu dans la crainte, je vais par lecture approximative. Et donc ça veut dire, cette première partie du verset, servez Dieu, c'est-à-dire avec joie, mais dans la crainte, Vegilu Birada, et réjouissez-vous en tremblant. D'abord, je voudrais vous donner le pshat du verset, comme il a été enseigné dans le Talmud de Yerushalmi, cité par tous. Voilà le pshat d'abord. Eivdu et Hashem Beira, servez Dieu avec ira dans le temps de Olam Hazeh, dans le temps de l'histoire, alors Gilu Birada, alors vous vous réjouirez quand tout le monde tremblera. Ça, c'est le pshat du verset. C'est-à-dire, si vous servez Dieu dans la crainte, vous vous réjouirez dans le tremblement. C'est-à-dire, quand le monde entier tremblera au jour du jugement, Vous serez dans l'exultation, Gilou. Pourquoi? Pour avoir servi Dieu dans la ira. Mais c'est la première partie du verset qui va d'abord nous occuper. Comment elle est utilisée par la Gemara ici? Nous avons deux versets dans l'Exode. Il y a Eivdu et Hashem be Simcha et il y a Eivdu et Hashem be Ira. Je traduis, nous avons un autre verset d'Exode qui dit servez Dieu dans la joie et le nôtre qui est cité ici dit servez Dieu dans la crainte. Et je vais mettre tout de suite en évidence dans la première remarque qui me semble fondamentale, c'est que nous avons besoin des deux versets, et donc il faudrait expliquer pourquoi c'est celui-là qui est cité ici et pas l'autre, par exemple, mais c'est que à l'intérieur même du premier hémistiche, c'est comme ça qu'on dit de la première partie du verset, il y a la référence à un sentiment mixte, un sentiment double, c'est-à-dire à la fois joie et crainte, ce qui est bien évidemment montré dans la fin du verset, « Vegilu virada ». C'est-à-dire la joie seule, c'est pas encore ce que l'on cherchait pour le Kovod Rosh, la crainte seule, c'est pas encore ce que l'on cherchait, mais lorsqu'apparaît cette expérience mixte de à la fois crainte et joie, joie et crainte, alors c'est cela que l'on cherche. Donc nous allons essayer de comprendre à quoi la Gemara fait allusion lorsqu'elle veut expliquer ce Kovod Rosh de la Mishnah. Première remarque, c'est qu'il s'agit d'une référence à des émotions absolument universelles. Et c'est une remarque qu'il faut vraiment exploiter jusqu'au bout. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas une grâce particulière de l'expérience religieuse, comme le dit en général la théologie générale, en particulier la théologie chrétienne, qu'il y a des tempéraments qui sont privilégiés par une grâce qui fait que, par nature, ils peuvent être accessibles à l'expérience religieuse et pas d'autres. Nous n'avons pas du tout ici un terme, ni une réalité, ni une valeur qui serait spécifique dans le sens strict du terme, de l'expérience religieuse. Mais on nous renvoie à une expérience qui peut être universelle. Quiconque est capable d'éprouver la joie, quiconque est capable d'éprouver la crainte, qu'est-ce que c'est que la situation religieuse ? Est-ce qu'on éprouve à la fois joie et crainte, et alors il faudra comprendre pourquoi, de quoi s'agit-il, mais à la manière la plus simple, c'est-à-dire la plus universelle. C'est-à-dire la première leçon qui apparaît, c'est que n'importe quel homme ou femme est capable de ce que la Mishnah demande, le Kovet Rosh. Il n'y a pas des hormones particulières pour cela. Est-ce que c'est clair ? Oui. Et voyez pourquoi on avait évacué les premières lectures. On avait évacué les premières lectures parce qu'elles sont trop spécifiques. Pour être existentialiste, il y a des hormones particulières. Je ne prends plus l'exemple de Hana. Ça, n'importe quelle femme peut être Hana. D'accord ? Et c'est très important de voir qu'on va le donner comme modèle et sur des pages entières. Ensuite, dans la Gemara et dans d'autres Gemarot, on prend Hana comme modèle pour toutes les halachot de la Tfila. Rabbi Elazar est très fort. Dès que Rabbi Elazar enseigne dans le Shulchan Aruch de la Tfila, c'est lui qu'on suit. C'est-à-dire, c'est très important de voir que c'est la prière de Hana qui est prise comme modèle. Et je veux dire que, par exemple, il y a l'expérience esthétique et il y a l'excitant spécifique du sentiment esthétique. C'est très spécifique. Mais il y aurait, si vous voulez, du point de vue du tempérament de la sensibilité juive, il y aurait une perspective blasphématoire à définir Dieu comme l'excitant spécifique du sentiment religieux, le sentiment religieux étant un sentiment spécifique d'un certain tempérament humain. Ça, c'est la religion des païens. Je pense que c'est clair. Ça y est, c'est clair. Bon. Et comme par exemple, tout un vocabulaire qui est employé et qui est extrêmement gênant, satisfaire des besoins religieux. C'est épouvantable comme vocabulaire. Regardez où on est tombé. Et de quoi on parle? Du créateur du monde. Comme je dis souvent, l'intention du créateur, c'est pas de créer des synagogues et de mettre un monde autour, c'est de créer un monde. Et dans le monde, il y a des synagogues. Où on a des rendez-vous trois fois par jour. Mais vous comprenez, il faut complètement inverser cette perspective. Il n'y a pas, à la limite, pour la problématique hébraïque et donc juive, il n'y a pas de sentiment religieux spécifique. Il y a une authenticité humaine universelle, et lorsqu'elle est atteinte, alors il y a situation de prière. Est-ce que c'est bien clair ? Bon. Avant d'arriver à une réponse encore un peu plus loin, la réponse de la Gemara, c'est-à-dire de quoi s'agit-il de cette expérience mixte, d'un côté joie et de l'autre côté crainte. D'abord, les deux versets. Vous chercherez vous-même les références, ça vous obligera à lire les psaumes. Mais donc, un verset dit « Eivdou et Hashem besimcha »« Servez Dieu dans la joie ». Il faut donc lire ce verset de « Servez Dieu dans la joie ». Servez Dieu, c'est-à-dire dans la crainte, dans la joie. Et notre verset, servez Dieu dans la crainte, servez Dieu, c'est-à-dire dans la joie, dans la crainte. Et la raison pour laquelle notre Gemara choisit le deuxième verset que nous avons ici, servez Dieu, Evdou, Avoda, c'est-à-dire joie, mais ajouter la crainte, est importante. Parce qu'elle nous montre que c'est cela, si vous voulez, la position, je ne veux pas dire orthodoxe, mais la position la plus authentique. Le fait que spontanément, l'idée de Evdou, d'être Eved Hashem, ça c'est la joie, mais étant donné le danger qu'on va définir de la joie seule, il faut y ajouter la crainte. Que ça c'est la voie normale. Mais ici la Gemara, le livre des psaumes lui-même, nous prévient qu'il y a deux situations possibles, naturellement. Je vais essayer d'expliquer cela par approximation successive comme d'habitude. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des hommes ou des femmes qui, de tempérament naturel, sont pessimistes. Alors, l'interpellation religieuse, ça sera d'y ajouter l'optimisme. Et inversement, vous pouvez avoir des tempéraments naturels optimistes. L'interpellation du Kovet Rosh, c'est d'y ajouter la crainte du pessimisme. Mais, selon la Gemara, il est naturel d'être de tempérament optimiste et de tempérer cela par la crainte. C'est-à-dire, il est naturel d'être donné à la joie et de tempérer cela par la crainte, et nous verrons ce que cela représente dans les implications, mais il n'y a pas de doute que ces deux tempéraments existent, et c'est pourquoi chaque fois que vous trouvez deux versets complémentaires pour la même réalité, c'est parce que, au niveau de la nature, les deux possibilités sont offertes et la même règle joue, celle de la complémentarité. C'est-à-dire, si je suis naturellement porté à la joie, alors la Torah m'interpellera, ajoute la crainte. Et c'est ça le sentiment religieux. Si je suis naturellement porté à la crainte, la Torah m'interpellera, ajoute la joie. Et c'est ça le sentiment religieux. Mais nous avons ici une indication, encore une fois, d'orthodoxie entre guillemets. Le processus normal, c'est d'être joyeux parce que vivant, mais dans la crainte parce que priant. Et là, maintenant, tout s'organise dans cette cohérence propre, mais je n'ai pas fini l'explication. Au fond, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la situation de celui qui entreprend de prier. Omdin leit palel. Mais nous avons déjà appris que cette situation est une situation de jugement. Donc, ce que la Gemara avait demandé, c'est de comprendre et qu'est-ce que c'est que ce Kovet Rosh que la Mishnah demande par rapport à la situation de jugement. Et que ce qu'elle établit, en fin de compte, c'est l'expérience affective, spirituelle, si vous voulez, qui correspond à la situation de celui qui est en train d'être jugé, et qui est à la fois joie et crainte. Joie parce que jugé, donc ça a un sens. Mais crainte parce que jugé, parce qu'il y a un verdict, etc. Et alors là, nous arrivons au fond de l'enseignement de la Gemara. Cette expérience qu'on a appelée par un vocabulaire que la Gemara n'emploie pas parce qu'elle ne connaît pas, le sentiment religieux, c'est l'expérience des limites de la liberté. Lorsque la liberté réussit, il y a joie. Lorsque la liberté est en échec, il y a crainte. Par conséquent, expérimenter en même temps joie et crainte, c'est se connaître comme être libre. Mais c'est ça la situation de la Tfila. Et donc, joie parce que libre, mais crainte parce que libre. Et puis là, toutes les équivalences peuvent être développées. En général, l'expression traditionnelle, c'est joie parce qu'il y a un monde à venir, mais crainte parce qu'il faut passer par ce monde-ci. La ira s'attache à l'étape ce monde-ci, la simcha s'attache à l'étape de préfiguration de Olam Haba. Je récapitulerai ça, si vous voulez, par une formule simple. Joie parce que devant Dieu, crainte parce que devant Dieu. Mais pour des raisons qui finalement collaborent ensemble, dans cette expérience, je me connais comme être libre, c'est-à-dire comme être en jugement. Et c'est ça la situation religieuse, établie pour cette halakha, en tout cas. Est-ce que c'est bien clair ? Bon. Voilà donc, si vous voulez, très schématiquement quand même, l'analyse de cette souvia ici. Et j'en tirerai, si vous voulez, une deuxième remarque. C'est que, en fin de compte, bien que ici la Gemara fasse allusion à une expérience qui est universelle, malgré tout, dans son authenticité propre, ça ne signifie pas forcément que c'est une expérience facilement accessible. Parce que, finalement, encore une fois, dans la règle de la complémentarité des valeurs, on nous demande de nous surhausser à un niveau surhumain. Parce qu'il est normal à l'homme d'éprouver la joie. Il est normal à l'homme d'éprouver la crainte. Mais ce sont des moments autres. Le fait d'avoir à éprouver ces deux émotions contraires en même temps est un moment de surhaussement surhumain. Nous avons des illustrations possibles. Par exemple, et vous pouvez d'ailleurs trouver d'autres exemples, il me semble qu'il y a des liturgies particulières qui favorisent ce Kovet Rosh, et alors on l'éprouve facilement. Mais ce sont des moments exceptionnels. Par exemple, au moment du Kol Nidre ou au moment de la Neila, dans le sens inverse d'ailleurs. Au moment du Kol Nidre, il y a crainte dans laquelle il y a joie, et au moment de la Neila, il y a joie dans laquelle il y a crainte. Mais vous avez dû remarquer cela par expérience. Ces moments privilégiés de Yom Kippour sont effectivement des moments de Kovet Rosh au niveau de son authenticité. Et alors que tout le reste du temps, il faut faire effort pour arriver à étreindre ce moment de Kovet Rosh. Encore une fois, le fait que ce soit bien évidemment l'invitation à une expérience accessible à l'universel humain ne signifie pas que ça soit facilement accessible. Et il fallait donc préparation pour pouvoir atteindre ce Kovedro. Ça vous expliquera l'ordonnance. L'ordonnance du Sidour. Le Kovedro, c'est exigé pour la tefila du Shmoneh Esrei. Et tous les rites préalables ont pour objet de nous faciliter cet accès au Kovedroj. Nous allons immédiatement lire la suite de la Mishnah et vous verrez à quel point nous sommes petits par rapport au niveau où il faudrait être. Hasidim Arishonim, les premiers Hasidim. Et ici, c'est un enseignement de la Mishnah qui parlait de leurs anciens. Hasidim Arishonim, Hayu Shoin Shahachat, attendez, littéralement, attendre, c'est plus qu'attendre. Se préparer dans l'attente pendant une heure au Mitpalelim et prier. Donc, pour les Chassidim Arishonim, c'est bien au-delà de ce que nous appelons en général aujourd'hui les Chassidim. Les Chassidim Arishonim qui étaient du temps des prophètes devaient se préparer pendant une heure pour atteindre ce Kovet Rosh. Kedesh Ikavlu Libam Laviyem Shebashamayim. Afin de pouvoir atteindre ce moment, ce niveau de l'intention de ferveur à leur Père qui est dans les cieux. Et ensuite, nous voyons que la Gemara va reprendre cet enseignement. Il se préparait pendant une heure et il priait pendant une heure. Et ensuite, il devait se dépréparer pendant une heure, si j'ose dire, pour pouvoir redescendre dans le quotidien. Alors, vous devinez tout de suite la question que la Gemara va poser. Alors, s'il leur faut 3 heures pour chaque prière, ça fait 3 fois 3, 9. Quand est-ce qu'ils travaillaient? Quand est-ce qu'ils étudiaient? Alors, la Guémara répond, c'est pas tellement ça qu'on va utiliser pour nous, mais la Guémara répond par le fait qu'ils étaient des chassidim. Leur travail et leur étude se faisaient par d'autres. C'est-à-dire, il leur suffisait de très peu pour leur travail et pour leur étude, par le fait qu'ils étaient des chassidim. Vous savez quelle est la règle? Nous avons 24 heures par jour. Il y a 8 heures de travail et de tout ce qui va avec, il y a 8 heures d'études et tout ce qui va avec, et il y a 8 heures de sommeil et tout ce qui va avec. 3 fois 8, 24. C'est la règle, j'allais dire médicale, mais enfin, c'est la règle du Shmanaou. C'est important de voir où on met la prière. Est-ce qu'on met la prière avec l'étude ou est-ce qu'on met la prière avec le travail? On la met pas dans le sommeil, bien sûr. Mais bon, on la met avec le travail. C'est une avoda. Et donc, voilà pour le cas des chassidim. Mais ce que je voulais signaler, c'est ceci. C'est que, bien évidemment, l'atteinte de ce niveau était longue, difficile. Et le niveau atteint était tel qu'il fallait une heure pour redescendre sur Terre. Alors, comprenez bien que lorsqu'on parle de Kavana, c'est pas ces petites choses diluées à l'eau de rose dont on parle, la ferveur Kara, l'inclination du cœur. Cette Kavana dont il s'agit ici, c'est d'arriver vraiment à construire cette situation de devant Dieu où on perçoit simultanément la joie d'avoir été créé mais la crainte d'avoir à en rendre compte. Et c'est cette expérience-là qui finalement nous est définie comme étant l'émotion qui nourrit le Kovet Rosh. Voilà en fin de compte où la Gemara est arrivée. Alors je crois que c'est extrêmement important de voir cela. C'est la remarque qui va récapituler cela. Juste une phrase, ceci. C'est que d'une part, Le judaïsme, se basant sur ce texte, est donc autorisé à rejeter toutes les théories du sentiment religieux qui ont cours chez les psychologues, les sociologues et les historiens des religions. Ça n'a rien à voir. Première remarque. Et deuxièmement, la compréhension de la Mishnah en s'incline, comme vous avez remarqué, nous fait atteindre ce que serait l'enseignement du judaïsme pour la définition de cette expérience religieuse, mais à l'échelle universelle. Et il n'est pas nécessaire d'être juif pour être capable de joie et crainte à la fois. Il suffit d'être homme. Mais un homme qui est capable de cela, c'est ça un juif. D'une certaine manière, c'est comme ça que c'est clair. Je pense que c'est...
L'obligation de la prière à date fixe...
Plus fort.
L'obligation de la prière à date fixe et à moment fixe...
Et avec texte fixe.
Je dirais exclure presque la possibilité justement d'atteindre cet état plus élevé. Est-ce que le fait de rajouter une heure au Shabbat par exemple ne va pas éloigner les gens de l'effort que peut représenter justement cette trajectoire en vue de se mettre dans un état qui peut-être
Écoutez, je ne comprends pas la relation entre la deuxième partie de votre question et la première. Enfin, je vais m'occuper un peu de la première, vous me direz après comment la deuxième se relie. Le fait d'ajouter une heure au Shabbat. Voilà. D'abord, je vais expliquer la question, je pense que tout le monde n'a pas entendu. C'est-à-dire, nous avons donc parlé de la nécessité. Vous avez des chaises là. Venez là. Nous avons donc parlé de la nécessité de l'atteinte d'une certaine attitude d'expérience intérieure qui s'exprime par le Kovet Roche, par l'attitude de sérieux. Et on a bien compris maintenant que l'attitude de sérieux pouvait être atteinte par différents cheminements, mais qu'il y en a un seul qui définit l'authenticité de l'expérience religieuse, entre guillemets, c'est la Kavana. Top. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Gemara a cherché? À définir la Kavana du Kovet Roche. Alors, laissons de côté les traductions habituelles du mot Kavana, je vais le reprendre tout à l'heure, mais ici nous avons bien compris de quoi il s'agit. Il s'agit du sentiment de soi dans le devant Dieu. Et vous voyez que nous sommes bien loin de ces Kavanot de style mystique occidental, moderne, de la mystique du civilisé, qui, comme disait notre maître, c'est de la bouillie sucrée diluée à l'eau de rose. Hein? C'est une espèce d'inclination pseudo-romantique. Mon Dieu, je t'aime. Le goy. Et c'est pas de ça qu'il s'agit. Vous voyez, cette espèce de. Comment il s'appelait celui-là? Bernadette Saint-Pierre. Enfin, la nouvelle Héloïse. Enfin, ce niveau de Kavana rue Copernic. Je vais vous dire ce que je dis. Et alors, ça ne veut pas dire que c'est à rejeter, mais c'est pas de ça qu'on parle. Je pense. Eh bien, Et la question qui a été posée, c'est ceci. C'est que, est-ce qu'on est capable d'une telle atteinte, à la fois joie et crainte, dans cette authenticité de prise de conscience de moi comme créature libre, et donc joie d'être libre, mais crainte d'être libre. Donc c'est assez très, très had, comme on dit en français, had. Aigu. Had. C'est un point aigu. Alors, c'est quand on est arrivé là, qu'on peut commencer à dire Adonai, Spatai, Tiftar, comme nous avons vu hier. J'en profite pour une petite remarque. C'est ceci. Ne tombons pas dans l'erreur de croire que la prière, comme comportement, a pour objet d'atteindre le Kovet Roche. On se sert de la prière pour arriver à l'émotion religieuse. Ça c'est l'échec de la liturgie. C'est l'inverse. Il faut d'abord arriver au Kovet Roche pour ensuite avoir le droit de prier. Est-ce que c'est bien clair? Bon, alors la question qui est posée, je n'ai pas encore même cité la question, c'est ceci. Non seulement c'est un état très difficile, mais est-ce qu'on peut être capable, est-ce qu'on n'est pas gêné par la règle qui fait que trois fois par jour, à heure fixe, et avec un texte précis qu'il faut réciter chaque fois, est-ce qu'il n'y a pas cette difficulté du risque de la routine, etc. Alors, je voudrais d'abord répondre à cela, d'abord formellement, et ensuite dans le fond de la question. Formellement, il faut comprendre que dès qu'on aborde une règle de définition d'authenticité, il faut être très modeste. Chacun à son niveau. On ne nous a pas demandé d'arriver d'emblée au niveau des chassidim arishonim. Chacun à son niveau peut être authentique. Et alors, si je me place d'abord comme objectif, un objectif inaccessible, c'est bien évidemment un alibi pour ne faire aucun effort pour l'atteindre. C'est-à-dire, il faut une très grande modestie. Chacun, à son niveau, peut être absolument authentique. C'est clair, c'est la première réponse, disons, formelle. Il n'y a pas d'empêchement. Et, comme on a posé la question hier, eh bien, quel est ce que le Shulchan Aruch exige comme Kavana? Qui avait posé la question hier? Oui, c'était M. Bliard, il n'est pas là. Non. Mais ça complète sa question. Ce que le Shulchan Aruch exige comme Kavana, oui, il parlait de la prière de Mincha, surtout la plus difficile à Kavana, et c'est d'ailleurs à propos de la prière de Mincha que le Shulchan Aruch est le plus Mahmir
dur,
exigeant, puisque la prière de Mincha, on a la tentation d'esquiver la Kavana, et c'est à propos de la prière de Mincha qu'on a dit Tfila bli Kavana hike guf blin shama. Or la Mincha, c'est un guf blin shama, puisque la mincha, c'était de la farine. C'était goût blinchama. Abal zegam ken tfila. C'est l'exemple d'ailleurs de mincha. Et voilà, à quoi donc je pensais ? Oui, c'est ce que le Shulchan Aruch exige, c'est qu'au moins on ne fasse pas de faute de prononciation. C'est tout. Et alors, au niveau où on est, c'est authentique. Et, alors bien entendu, chacun est à un niveau différent de préparation à la capacité de tel ou tel niveau de Kavana. Et d'abord, Kavana, de faire attention à ce qu'on fait, même si on ne sait pas ce qu'on fait, parce qu'on n'est pas capable de comprendre encore ce qu'il y a comme chokhma dans les mots qu'on dit. Adonai Sfata Tiftach Ufiagite Latecha. Tout ce qu'on a demandé, c'est ouvre ma bouche, et si toi tu ouvres ma bouche, mes lèvres, ma bouche dira ta louange. Moi je ne sais pas, mais vous voyez comment ça marche. Et comme nos maîtres ont l'habitude de nous dire, bon, quand on étudie et que c'est dur d'arriver au bout, dis ça fait rien. Toi tu ne comprends pas, mais ta Neshama comprend. Alors apprends quand même. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et c'est vrai d'ailleurs. Enfin, faites expérience. Et le deuxième niveau, c'est cette kavana que on est pas seulement dans l'attention à ce qu'on fait, mais dans l'intention de ce qui nous a été demandé. C'est-à-dire faire ce qu'il y a à faire dans l'intention qui a été demandée. Et puis cette kavana formelle qui imprègne le tout de l'attitude de ferveur, d'émotion. D'accord ? Bon, tout cela, chacun en est capable au niveau où il est, et au niveau où il est, c'est kasher. Je pense que c'est clair. Je n'ai pas d'autres exemples en tête, si vous voulez, mais par exemple, c'est un peu loin comme sujet, mais vous comprenez. Il y a un verset qui dit que lorsqu'Israël était au pied de la montagne, au moment de la révélation, qu'en réalité, tout Israël était étagé sur la montagne. Chacun à son niveau entendait la même Torah là où il était, et chacun à son niveau, c'était une Torah absolument authentique. Et il y a invitation de gravir les niveaux, mais chacun à son niveau et sur l'échelle. Bien. Et attendez, j'ai pas fini, votre question était très ample. Valé Atler. Comme ça me permet un peu d'élargir le sujet. Je vous citerai une phrase de Léon Algazi. Vous avez entendu parler de Léon Algazi.
La chorale.
Parce qu'un jour, il parlait de ce problème, et il disait, vous savez, c'était un musicien. Il disait, alors, avant qu'un musicien arrive, qu'un grand pianiste arrive à réussir une symphonie, il faut qu'il fasse des gammes. Et alors, si on ne fait que des gammes, on n'a jamais fait que des gammes, mais le jour où le fait d'avoir fait des gammes nous permet de jouer la symphonie, les gammes sont au niveau de la symphonie, un peu dans le sens hébreu. Gammes et gammes. et voilà, alors pendant très longtemps, on fait des gammes, et puis un jour, voilà que on est capable de la symphonie. Mais on ne serait pas capable de la symphonie si on n'avait pas fait des gammes. Alors les gammes, Mahashavatova, Akadosh Baruch Hu Metzarfa, les Mahasé. Quand le Mahasé est réussi, la Mahashavatova est Mistarefet. Ça veut dire, c'est clair, voilà, la performance de l'athlète. Et pendant le temps où il est en apprentissage, eh bien, il n'y a aucune performance, il y a un effort pénible. Okay? Le jour où la performance est possible, tout l'apprentissage a la valeur de la performance. Alors oui, il y a un enseignement comme ça. Toutes les prières sont entendues. Elles sont en dépôt quelque part. Et dès qu'on mérite, elles sont toutes exaucées. Oui. Entendre, elles sont entendues. Exaucées, c'est machu achel. Okay. Mais en tout cas, shomear tefila. Elles sont entendues. Elles sont quelque part. Encore une histoire chassidique. Je ne sais plus lequel des chassidim. Un jour, il rentre dans la synagogue de sa communauté. Et puis, il rentre et il ressort. Alors un jour, une fois, son fidèle lui a dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu ne rentres pas? Il dit, c'est plein de prières, ça m'empêche de rentrer. Ça veut dire, c'est plein de prières. Bien. Alors, ça veut dire, c'est des prières qui n'ont pas pu. Deuxièmement, maintenant, sur le fond de la question. Et là, j'en arrive à la règle du rituel. C'est ceci. Qu'est-ce que c'est que ce geste de la tefila? Qu'est-ce qu'il y a dans le comportement précis du geste de provoquer le jugement de soi par soi et être jugé de telle sorte de savoir si qu'il soit mis en évidence si il y a mérite suffisant pour recevoir l'objet de la demande? Et rappelez-vous que nous sommes dans une catégorie de tefila bien précise, celle qui se réfère au jugement du mérite. Il y en a d'autres. Eh bien, c'est que je me soumets à une interpellation. Qui es-tu? Tu me demandes ceci. Mais qui es-tu pour me demander ceci? Et donc, il y a effectivement, dans ce geste même de Itpalelut, qui est un barbarisme, mais vous comprenez quel est le comportement, je me confronte à moi-même. je, moi, de la vie quotidienne, me confronte à moi-même, moi, fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Isaac et Abraham. C'est clair ? J'ai donc une identité de référence avec laquelle je me confronte. Et cette identité de référence, c'est le texte que je lis. Mais moi, je change chaque fois. Donc, jamais la prière n'est la même, bien qu'il y ait des règles fixes, et en particulier du texte même. Si vous voulez, l'acte qui résulte de cette confrontation n'est jamais le même, parce qu'un des facteurs n'est jamais le même. Alors, je me confronte à un absolu éternel qui est ce que je suis censé être par ce texte, tel, et la Itpalelut surgit de cette confrontation de moi qui change le matin, l'après-midi et le soir, je ne suis pas le même, et demain je ne serai pas le même, et bien que le texte soit le même, et que chaque jour c'est matin, midi et soir, ma prière n'est pas la même. Il suffit de comprendre ça. Hein. C'est qu'il se passe quelque chose dans cette confrontation de soi à soi. Je me parle, mais le je et le me ne sont jamais les mêmes. Le je n'est jamais le même que le me. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Moi, j'ai changé. Un être vivant n'est jamais le même à aucun moment de son existence. Bien que ma référence soit immuable, moi, je change. Donc, ma prière n'est jamais la même. Alors, si je sens que ma prière est morte, c'est pas le texte qui est mort, c'est que c'est moi qui suis mort. Alors, il faut me réveiller. Est-ce que c'est maintenant suffisamment clair ? Bon.
Mais d'un jour à l'autre, moi, c'est pas la même demande,
je crois
que je ne sais plus ce que je demande.
Et en tout cas, là on va reprendre le terme de Kavana dans un autre vocabulaire, le Kivun. La visée de ce que je demande est toujours la même. Mais quoi vraiment ? Il n'y a que Dieu qui sait pour moi ce qui est le meilleur. Je, dans l'état où je suis, demande ce qu'il y a décrit dans le texte de la prière d'Israël. Mais le je, dans l'état où je suis, n'est jamais dans le même état, donc cette prière n'est jamais la même. C'est ce que dit la Mishnah de Pirkei Avot, « Al ta'as tefilatra keva ». Ne fais pas de ta prière une chose fixe. Et comment le Shulchan Aruch applique cela ? Lis toujours le même texte, et assis-toi toujours au même endroit, et prie toujours avec le même livre. Alors c'est comme ça que ta prière ne sera pas fixe. Parce qu'est-ce qui change ? C'est toi, c'est pas le livre, c'est pas l'endroit, c'est pas...